Les Cascodeurs Podcast, épisode 298, de l'IA à toutes les sauces, enregistré le 21 juillet 2023.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Bonjour et bienvenue tout le monde pour cet épisode 298 des Cascodeurs, les news des Cascodeurs. Nous sommes le 21 juillet.
Épisode et aujourd'hui. Estival.
Eh oui, estival. Il fait beau,
j'ai envie
fait...
de dire ça aussi.
Il fait beau en plus, hein. Il fait super beau.
Ouais, ça va.
Oh, si, ça va. C'est... En plus, chez nous, il fait pas trop chaud. C'est acceptable dans le nord de la France.
On est toujours au nord de quelqu'un.
Hein. On est toujours au nord de quelqu'un. Oui.
Ça va pour le nord.
C'est ça. Bon, aujourd'hui, Arnaud, Guillaume et Emmanuel sont ensemble. On va vous faire les news de juin-juillet. On a décalé un petit peu l'épisode faute de 14 juillet. Donc, on va faire le. Voilà, bon, allez, on y va. On démarre comme d'habitude traditionnellement avec les news. On va. Les news des langages, pardon. Donc, on démarre avec du Go. La Go version 1.2.1. Qui est sorti, qui supporte WASM et WASI nativement.
Un Go 1.21, alors c'est une release candidate.
Ah oui, c'est ça, c'est 21, c'est parce que je me suis dit.
Ouais,
21.
Non, ouais. Parce que j'ai écrit, attends, 2 points. Ah oui, j'ai écrit.
C'est 1.21, oui, c'est ça.
Oui, c'est 1.21, pardon.
On est bien d'accord.
Donc, release candidate, il y a différentes petites améliorations, bug fix, etc. Il y avait aussi des nouvelles fonctions built-in, genre min, max, des choses comme ça. Et aussi des nouveaux packages, des additions là dans la standard library, par exemple pour gérer.
Tu peux faire des additions maintenant en Go, allez, non, c'est,
ouais,
pas... c'est le moment.
Ouais, non, mais genre sur les slices, sur des maps, on peut faire différentes choses, enfin un petit peu des méthodes que nous on a l'habitude en Java, des comparaisons, des tris, des recherches binaires, des max, des min, des recherches binaires, des choses comme ça. Qu'il n'y avait peut-être pas avant, du coup. Alors, comme je suis pas un développeur Go, je ne saurais pas dire ce qu'il y avait vraiment avant ou pas, mais en tout cas, j'avais l'impression que ça, c'est des nouveautés. Et ouais, donc ceux qui voulaient faire du WASM, du WebAssembly, j'avais l'impression que c'était plutôt la variante TinyGo qui était peut-être un peu plus adaptée parce que ça faisait des binaires, enfin des... comment on appelle ça, du coup, les binaires WebAssembly, quoi, les fichiers WASM plus petits et tout. Et là, donc, il y a un vrai support officiel. Enfin, c'est encore expérimental, hein. Mais le support, là, de WebAssembly System Interface, donc WASI, Preview 1. Alors ça, c'est un truc aussi qui est pas mal en évolution. Il y a une future, je sais pas trop où on est, la Preview 2, mais qui est assez radicalement différente de celle-ci. Donc voilà, c'est un truc à tester si jamais vous faites du WebAssembly avec du Go, de voir ce que ça peut vous apporter.
Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait pour le garbage collector, du coup ?
Alors du coup, je sais pas, parce que normalement la proposition garbage collector de WebAssembly, je pense qu'elle est pas encore intégrée, standardisée, etc. Du coup, je sais pas ce qu'ils font par rapport à.
D'accord.
À l'intégration WASI, tout ça, la nouvelle target, je sais pas, je n'ai pas le détail. Je ne suis pas assez de près pour être capable de commenter là-dessus, en tout cas.
Ouais, ok.
Ok.
Donc, Java ?
Java ? Oh, un petit peu.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
C'est quoi Java ? J'ai oublié ce que c'était. Que Java. J'avoue que personnellement, j'y touche plus, ça me manque. On va passer donc avec Java, on va parler de String Builder peut-être pour commencer, String Builder et de concaténation String.
Alors String Builder, c'est rigolo, nous quand on est né, il n'y avait pas String Builder. Et puis du coup, on utilisait plus pour concaténer les chaînes de caractères. Et puis un jour String Builder est arrivé et ils nous ont dit non, mais quand vous utilisez les plus, c'est super long, ça crée les chaînes initiales, ensuite des chaînes intermédiaires, c'est vraiment nul, utiliser String Builder. Et puis, donc là, je sais plus le nom de cette personne, mais est un peu revisité un peu cet état de l'art, et cet état de l'art, il a pas mal bougé. Parce qu'en fait, la JVM, maintenant, est de plus en plus intelligente avec elle reconnaît des patterns d'usage et elle les transforme, en fait. Donc, elle n'applique pas littéralement le bout de code que vous faites. Et donc avant, le string builder c'était la recommandation parce que ça crée notamment moins d'objets, et comme string était dans un espace un peu particulier, d'ailleurs toujours, mais dans un espace un peu particulier de la mémoire, parce que les chaînes sont pas censées être garbage collectées. Voilà, ça posait des problèmes. Valait mieux utiliser string builder, puis à la fin faire un toString et puis avoir ce qu'on voulait. Et en fait, le JIT maintenant, il regarde et puis il sait faire les A, il fait plus machin truc. Hop, je vais en fait, c'est même pas qu'il va dire je vais faire comme string builder. Évidemment, il fait encore mieux sans utiliser d'objets intermédiaires, encore moins. Du coup, c'est limite encore plus rapide. Et donc, il fait des tests. Je me rappelle plus le nom du bench du framework l'outil de benchmark pour faire les micro tests de performance, mais il utilise ça. Et il montre un peu du coup comment ça marche mieux en fait de repartir au code naïf plutôt que d'être smart. Voilà, JMH, ouais, merci. Et donc il y a quelques petites exceptions encore, en tout cas dans le avec les tests qu'il a fait. C'est quand la chaîne de caractères est utilisée dans du code qui est froid, c'est-à-dire la JVM est pas encore chaude ou le code est tout nouveau, donc il est encore dans son mode d'interprétation. Il n'a pas encore été compilé une fois ou deux fois ou n fois. Dans ce cas-là, en fait, le string builder bénéficie au code interprété. Donc, si vous faites de la configuration initiale d'un framework, ben, utilisez string builder. Voilà, si c'est dans une boucle assez fréquente de votre code, genre dans une requête HTTP, ben là vous aurez moins besoin, vous aurez pas besoin. Et l'autre cas, c'est quand c'est dans des boucles. Donc, on ouvre un string builder et puis dans les boucles, on rajoute des choses. Donc ça, aujourd'hui en tout cas, la JVM a tendance à ne pas ou pas toujours pouvoir l'optimiser. Et du coup, utiliser un string builder ici plutôt que la concaténation, c'est mieux.
Et a priori, il y a des cas où c'est un peu, pas forcément les boucles, mais aussi vraiment programmatique. Peut-être ceux qui font des template engine ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça a l'air d'être peut-être plus pertinent aussi de l'utiliser. Ce qu'il avait l'air de dire, je crois, il y avait un passage où c'était, si c'est programmatique et pas optimisable, genre si t'as plein de branches et tout, faut rajouter ça ou pas, ça a l'air d'être faire sens aussi d'utiliser String Builder.
D'accord. Ouais, je me rappelle.
Ce que je sais pas, par contre, ce que l'article montre pas, je me souviens d'avoir vu des articles dans le passé justement où ça comparait concaténation de chaînes, et c'est quand tu sais, les articles regardés au niveau du bytecode, parce que la concaténation, du coup, des fois utilisait quand même String Builder de manière transparente quand tu faisais des plus. Est-ce que là, du coup, c'est toujours le cas ou pas?
Parce que j'ai inféré, alors, j'ai pas vu le code de pattern, mais j'ai inféré dans la façon dont l'article a été précisé. J'ai l'impression qu'il y a des cas, en tout cas, où ils utilisent même plus String Builder. C'est-à-dire que.
Ouais, c'est ça que j'ai l'impression, ouais.
À la compilation, ils savent qu'ils font la concaténation qui vont bien, elle est faite à la compile, quoi. Du coup, au niveau du runtime, t'as même pas de String Builder qui est là. C'est comme ça que je l'ai interprété.
Ouais, dans la majeure partie des cas, vous emmerdez pas avec String Builder, faites des plus, c'est bon, quoi. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai.
En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. C'est intéressant.
Non, c'est pas mal.
C'est bon,
ça va. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Ah, faut changer les habitudes, hein. C'est pas simple.
Ouais, ouais.
On y a pris goût, quand même. ok. Passons donc à GPT. Alors, il y en a partout de l'IA. On en a mis un petit peu dans toutes les sections parce que, il y a de l'IA partout. Hein, c'est la norme. On a mis celle-là dans le langage puisqu'on parle de GPT lui-même. GPT-4, c'est un article qui est derrière un paywall. Donc, tu vas pouvoir nous le raconter.
C'est marrant parce que moi, j'ai pas payé.
Et pourquoi t'as pas payé, toi? Mais c'est pas. C'est pas bien. GPT-4 n'est pas une révolution.
Oui, en fait, donc l'article, il dit.
C'est une supposition. Il n'est pas sûr à 100% que c'est vraiment ça. Hein, c'est ça.
Non, parce que en fait, ça n'avait pas été vraiment annoncé.
Ça n'a pas été.
En fait, GPT-4, qu'est-ce que c'est? Voilà. Quels sont les? Comment c'est fait techniquement? En fait, c'est pas vraiment dit. Je crois que depuis, des choses ont été un peu ouvertes, mais. En gros, son hypothèse, c'est que donc GPT-4. En termes d'effectivité dans le travail de tous les jours où vous l'utilisez, il y a une vraie différence. Donc ça, pas de souci là-dessus. Mais en fait, quand ils ont commencé à faire la partie bêta, ils ont assez vite fermé et limité le nombre de gens parce qu'ils voulaient pas que les gens trouvent un peu comment ils ont fait la sauce secrète de GPT-4 versus 3.5. Et donc, ça a créé beaucoup de rumeurs, genre ça y est, ils vont arriver à un modèle avec un 1000 milliards de paramètres, une révolution par rapport à ce qu'on savait faire avant. On s'attendait à vraiment un changement de paradigme au niveau de l'intelligence artificielle, au sens waouh, personne n'a jamais réussi à faire ça avant, etc. Et en fait, il se trouve que c'est plutôt qu'il y a 8 équivalents GPT, il y a 8 modèles plutôt à 220 milliards de paramètres qui est dans les... Alors, Guillaume, tu sauras un peu plus que moi, mais qui sont dans les volumes classiques en nombre de paramètres des gros
C'est plus gros effectivement une combinaison de différents modèles ensemble, plus petits, plus spécialisés, mais qui, remis ensemble, quand tu réassembles en quelque sorte les résultats, ça te donne un meilleur résultat en combinant ces petits résultats, quoi.
C'est ça.
Plus spécialisé.
Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné intelligemment, comme tu dis, et c'est comme ça qu'ils ont amélioré. Donc au lieu de faire du scale-up, ils ont fait du scale-out. Voilà. Et donc, c'est pas vraiment un breakthrough, parce qu'en fait, je sais plus s'il y avait eu un papier, mais en tout cas, ça avait déjà été fait chez Google, et que bizarrement, les gens qui l'avaient fait, en fait, avaient rejoint OpenAI quelques années avant. Donc, il y a eu sûrement un transfert d'idées qui s'est opéré. Mais il dit que c'était assez intelligent parce qu'avec toutes ces rumeurs et ce secret-là, ils ont en fait fait reculer la compétition parce que LLMA, Llama, qui est en fait la version qui vient de Meta, on pouvait se dire, OpenAI avec ChatGPT, ça n'a aucun rapport avec Llama. Llama sera dans la poussière. Alors que là, on se dit, peut-être qu'avec 8 Llama, on peut largement rivaliser avec ChatGPT-4 et commencer à travailler à la combinaison.
Avec Llama, tu as un troupeau, je pense. Et d'ailleurs, alors, on l'a pas mis dans les news, mais Meta, justement, a sorti Llama 2, une nouvelle version, qui a l'air de très bonne. Alors, il y a des petites polémiques, d'ailleurs, au sujet de Llama 2, parce qu'ils disent que c'est open source, mais quand tu regardes les termes, c'est peut-être pas vraiment open source, ou les points ne le sont pas. Enfin, mais en théorie, d'après les termes, tu peux l'utiliser commercialement, etc.
Ah ouais, parce que le premier, il y avait... Enfin, la partie... Les points, justement, c'était pour la recherche, quoi.
C'était pour la recherche.
Un peu coincé.
Ouais, exactement. Et après, bon, t'avais des variantes, des gens qui avaient créé Open Llama, qui avaient reproduit Llama en open source avec les datasets disponibles publiquement, etc., et qui l'avaient vraiment mis en open source, y compris les poids.
Il y avait la pression.
Ouais. Ouais, c'est clair.
OK.
Donc, ça reste intéressant parce que, enfin, nous, on a nos concepts de ce qu'est l'open source en termes de logiciels, code. Qu'est-ce que l'open source pour les large language models? Est-ce que c'est le process lui-même? Est-ce que c'est le poids, les résultats? Ou est-ce que, enfin, voilà.
On en voit plein, autour de l'intelligence artificielle, t'en as plein où c'est genre, ou même des outils qui aident à aller récupérer les données, les transformer pour après les injecter dans de. Et en fait, c'est genre, vous pouvez y aller, c'est ouvert, mais vous pouvez pas faire de boîtes qui font de la compétition par rapport à la boîte du coup, c'est pas open source, quoi.
Totalement.
OK. Bon, bonne nouvelle pour GPT-4, et on verra bien si le 5 est une vraie révolution ou pas, alors, dans ce cas-là. déjà, quand on en saura plus sur l'implémentation réelle de GPT-4, ces détails.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça reste, moi, je reste toujours admiratif quand je vois tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, mais c'est marrant parce qu'après, quand on voit les implémentations, les usages, je discutais avec le product manager là de Copilot chez GitHub, en fait, on se rend bien compte que entre ce qu'on s'imagine qu'on peut faire et ce que finalement, techniquement, ce que les LLM peuvent faire aujourd'hui, on reste quand même super limité en termes de volume de données, contexte, etc., qu'on peut envoyer pour que ça soit digéré, etc. C'est pour ça que quand on voit les copilotes, etc., où on dit on aimerait bien que ça nous génère notre code à partir d'un projet complet, un LLM peut pas avaler un projet complet. On en est très loin de pouvoir avaler un projet complet. Quelques pages de code, c'est déjà énorme. Donc je trouve ça énorme quand on voit l'évolution déjà en quelques années et mois, le potentiel qu'on pourra aller quand ça va se développer. Enfin, c'est dingue.
Mm-hmm.
À suivre. On va passer sur du Rust. Vas-y. Donc un blog open source de Google qui parle de Rust.
Et ouais. Donc sur le blog effectivement de la branche open source de Google, qui a proposé un article qui revient un petit peu sur différents mythes ou non d'ailleurs sur l'apprentissage et l'utilisation de Rust. Alors c'est basé sur une sorte de review,
c'est les mythes qui font les trous dans les vêtements, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Les trous dans les voitures en l'occurrence, mais
sorte de sondage interne auprès de, d'un millier de développeurs Google qui se sont mis à utiliser Rust pour différents projets internes, etc. Et donc, ils viennent debunker, je sais pas comment dire en français, revisiter les mythes. Donc, par exemple, sur l'apprentissage de Rust, c'est compliqué d'apprendre Rust, enfin, je suis toujours persuadé que c'est quand même le cas, qu'il faut au moins 6 mois pour apprendre Rust. Et ils ont l'air de dire que c'est plutôt faux. Alors, ça varie quand même, hein, d'une personne à l'autre. Donc, ils montrent dans l'article des petits camemberts, etc. Mais globalement, donc, ils mettent, le gros des troupes met entre quelques semaines à 3-4 mois maximum pour apprendre et maîtriser Rust. Donc, ce qui est correct, parce qu'après, enfin, je sais pas si on regarde, même nous, un langage comme Java, on l'a appris peut-être rapidement au début, il y avait aussi moins de fonctionnalités, mais on a mis toute une carrière à développer et à apprendre au fur et à mesure tout ce qui se faisait dessus. Donc voilà, est-ce que après 3-4 mois on est la star du Rust, je sais pas non plus quoi, mais bon. Le compilateur Rust est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Bah ça c'est plutôt vrai, hein, il est pas très très rapide. Il mettait il y avait une quarantaine de pourcents de ceux qui ont répondu.
Et ce qui est encore moins rapide, c'est que quand t'as une erreur, l'humain derrière pour la corriger, il est encore moins rapide que le compilateur.
C'est sûr.
Et je te dis pas les coups de CI hein, derrière pour faire du reste. Hein.
Après, côté... donc, on dit toujours tout ce qui est code unsafe et interop, ça reste les plus gros challenges. Alors, ils ont l'air de dire que c'est plutôt faux. Les challenges, c'est plutôt les fonctionnalités un peu plus avancées. Par exemple, les macros. Je ne sais pas si beaucoup de gens les utilisent quand même. Utilisent des macros déjà faites. Créer des macros, c'est peut-être encore autre chose. Tout ce qui est... un des trucs qui fait les traits typiques de Rust, c'est tout ce qui est ownership, borrowing, etc., la gestion de la mémoire. Tout ça, ça reste toujours quelque chose de compliqué. Et la programmation asynchrone qui est pas évidente en Rust. Ensuite, côté message d'erreur, vu que justement on parle CI/CD, essayer de trouver qu'est-ce qui va pas. Donc Rust fournit des messages d'erreur de compilation qui sont bien et qui permettent, donc ça c'est vrai, hein, qui mettent de pointer exactement où est le problème. Donc ça c'est plutôt vrai. Et le code Rust est de haute qualité, et ça aussi, ceux qui ont répondu au sondage ont l'air de dire que c'est vrai. Donc voilà pour les mythes sur Rust.
Les mythes et réalités de Rust.
Ouais, langage riche, mais quand même compliqué, mais qu'on peut arriver à maîtriser en quelques mois quand même. Voilà.
Ça va. On repasse à du Java. Je l'ai mal listé dans l'ordre.
Ouais, on les met en avant. Ouais.
On repasse sur du Java, et cette fois c'est un article d'InfoQ sur le pattern matching Java. Alors c'est en septembre que Java 21, enfin, je suis perdu dans les versions.
21, ouais.
Ah, c'est ça qui sort.
21.
Avec toutes les améliorations, notamment sur le pattern matching de mémoire. Mm. Donc vas-y, résume-nous un petit peu là.
Donc il y a plus. Alors on en a déjà parlé plus d'une fois, ouais, du pattern matching sur le podcast. Je vais pas forcément revenir sur ce que c'est en soi, mais là l'article couvre pas mal de cas différents. Donc par exemple, du coup ce que je sais plus c'est quand est arrivé quoi. Mais par exemple, donc tout ce qui est, donc ça couvre le support des types de primitives, des types de références. Il parle aussi du cas nul par rapport au cas default. Donc si tu passes dans un switch une valeur nulle, est-ce que ça va dans default ou est-ce qu'on peut l'attraper? Ou là aussi, donc je crois que c'est nouveau, je crois que ça n'était pas avant. On peut mettre un case nul virgule default pour dire que ce soit nul ou que ce soit default, on peut passer dedans. Il redit aussi, ah oui, il y a l'utilisation des patterns qui sont gardés avec le mot clé when. Alors à un moment ça avait été autre chose, ça avait été c'était quoi un moment dans une des previews, c'était pas un if ou un je sais plus ce qu'ils avaient mis, enfin là c'est avec le mot clé when. Il rappelle l'importance de l'ordre des cases, donc si t'as des choses qui sont plus général en premier et quelque chose de plus spécifique après, c'est quand même celui qui est vrai en premier qui va être favorisé. Donc tu vas tomber peut-être plus dans le case qui est général plutôt que dans le case qui est spécifique. Donc bien faire attention à ce qui est plus général ou pas, et donc l'ordre de ces cases. Donc pattern matching peut être aussi utilisé avec le default dans les switches. Bah, du coup, vu qu'on parlait de la valeur nulle, je pense que ça le couvre aussi. Ah oui, le scope des variables du pattern. Ça, je sais plus ce qui change ou pas. En tout cas, voilà, ça nous explique le scope. Il faudrait que je reprenne l'article. Là, je sais plus. Je sais plus ce qu'il dit sur le scope. Donc, en tout cas, c'est sur la durée de vie des variables qui sont créées. Donc, par exemple, quand on fait case stack s, on lui donne un nom. Donc, quel est son scope? Un seul pattern par case label. Justement, il y a le cas. Bon, je sais plus. Je les ai pas trop utilisés encore, moi, les patterns, hein, je vais vous avouer. Je suis plutôt sur rester encore sur du 17, ce qui est déjà bien. Du coup, j'ai pas trop utilisé. Donc les cases avec un seul pattern dans le case label, les cases match all dans un bloc switch. Donc c'est-à-dire quand on fait directement, enfin avec default. Non, ou alors c'est par exemple quand on sait que qu'on switch sur une collection et que dans le case on a collection, ça sert à rien de mettre default parce que on sait déjà que ce sur quoi on switch c'est une collection. Et que non, on a déjà un case qui couvre le cas le plus général possible, qui est bah, la collection. Donc ça fait une erreur de compilation. Donc ça devait être nouveau aussi. Donc après, ça parle encore de l'exhaustivité de la couverture des types, l'utilisation des génériques aussi. Donc si par exemple on a une collection, par exemple voilà, on a qu'est-ce que ça dit ? Donc si on a des records, par exemple triangle et on a, alors qu'est-ce qu'ils avaient mis, des coordonnées, trois types de coordonnées différents. Alors attends, ça fait quoi ça? Du coup, j'aurais dû le relire parce que j'ai mis toutes les notes, mais je sais plus ce à quoi ça correspond. En tout cas, ça gère le cas des génériques, on va dire. Et la gestion des erreurs aussi avec match exception. Donc ça, je crois que avant, s'il y avait un problème, au runtime, on avait des runtime exceptions, du coup, alors que là, on a des nouvelles types d'exceptions qui est jeté, qui s'appellent match exception. Et ça, c'est nouveau, du coup, dans 20... Non, c'est dans 19 que ça a été introduit, et peut-être que 21, ça doit être JS, je sais plus. Ce que l'article, par contre, ne mentionne pas, c'est quand, qu'est-ce qui est preview, pas preview ou pas. Et comme ça a commencé, c'était en 17 que ça a commencé, ou même avant, en 14, je sais plus. Du coup, et comme ça a évolué au fil de toutes ces versions, personnellement, je suis vraiment perdu dans ce qui est couvert ou pas couvert, en preview ou pas en preview. Voilà, bon.
On va se dire qu'en 21, ça va être stable et on va pouvoir effectivement l'utiliser au quotidien, c'est ça. Normalement, c'était de mémoire, c'était un début.
Voilà, en tout cas, si vous voulez voir un petit peu tous les cas, un petit peu tordus, etc., l'article les couvre plutôt pas mal, voilà.
Ok, nickel. Bon, on va passer à la catégorie des... Alors, j'ai mis ça dans les librairies framework, après, c'est Stack, c'est Micronautes qui a sorti sa version 4.
Wouhou ! Grosse version. Donc déjà, les bases minimales, donc là, on part sur du Java 17, hein, c'est plus, parce que Micronautes 3, je crois que c'était encore Java 11. Donc là, de base, il faut passer en Java 17. Si vous utilisez d'autres langages comme Groovy, donc on passe en Groovy 4, et côté Kotlin, c'est Kotlin 1.8. Micronautes vient avec la dernière version, le support de la dernière version de GraalVM, donc quand vous faites des native images, et aussi donc l'équipe de Micronautes avait travaillé aussi avec les équipes de Spring, de Quarkus, tout ça, à ce qu'ils appellent la GraalVM Reachability Metadata Repository. Donc c'est un espèce de repo qui détaille. Donc quand on veut faire des native images, ça détaille finalement la bonne configuration de GraalVM pour que ça fonctionne bien avec, donc les choses qui sont par réflexion, les choses comme ça. Ça utilise toutes les métadonnées pour toutes les librairies, en tout cas dont dépend Micronautes 4. côté. Ouais.
Du coup, c'est genre, c'est pas tant la configuration générale, mais chaque librairie va dire, ben moi j'ai besoin de cette classe, même si tu, elle est pas accessible dans le code. Voilà. Après, il y a des options du genre, je veux que tu sois strict sur la fermeture de code ou un peu moins strict. Mmh. Voilà. Donc ça peut être défini. Ça reste statique puisque c'est un fichier texte, quoi. C'est dans le manifeste ou un truc équivalent. Donc, tu peux pas être super méga intelligent, mais tu peux faire au moins aussi bien que ce que tu ferais si tu faisais ça à la main à la ligne de commande.
Mais donc, tu peux le mettre dans les librairies, etc. Et
du coup, c'est les librairies qui fourniraient ça, voilà, qui fournissent voilà, ça en disant, ben voilà, en gros, si tu mets ça, nous, on fonctionnera. Ça sera peut-être.
Et en tout cas, du coup,
ça va peut-être compiler trop de choses ou consommer trop de mémoire, mais au moins, ça sera fonctionnel. Mm.
Et en tout cas, donc, ce qui est intéressant avec toutes ces améliorations, le metadata repository, tout ça, c'est que du coup, on a juste à dire build-le-moi en native, et normalement, on n'a pas de configuration particulière à faire si on utilise toutes ces librairies intégrées, supportées officiellement. On se prend pas la tête à configurer GradleVM pour ça. Côté build, donc, on passe à Gradle 8. Quand vous faites, donc il y a dans Micronautes, il y a une sorte d'expression language qu'on peut utiliser par exemple dans les annotations, etc. Donc là, il y a une nouvelle implémentation, un nouveau expression language, mais qui fonctionne en fait à la compilation et pas au runtime. Donc c'est-à-dire, donc quand on fait, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple je ne sais plus si c'est l'article site, mais bref, quand on a un chemin. Je sais pas, par exemple, si dans la doc, dans l'annonce, il mettait at secured et on met user.attribute.get.machin. Donc ça, c'est une expression qui est utilisée dans les annotations pour définir un chemin. Et en fait, ça, c'est compilé. Enfin, au moment de la compilation, c'est fait à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'injection possible au runtime, etc. Donc on n'a pas de problème de sécurité. On ne sait pas trop ce qui va se passer réellement au moment où le code va être exécuté. Donc voilà, c'est fait côté un petit peu comme tout ce qui est fait dans Micronautes, tout ce qui est AOT, tout ce qui est annotation processor, etc. Donc même l'expression language se déplace côté compilation. Donc dans Micronautes 4, on a le support des virtual threads. Qui est aussi c'est plus ou moins lié. Il y a une nouvelle couche HTTP qui élimine aussi des stack frames réactifs, surtout quand on n'utilisait pas le mode pur réactif. On voyait quand même dans les stack traces des stack frames qui étaient relatives aux librairies réactives. Donc là, ils ont réussi à éliminer ça. Il y a le support de IO Yuring et de HTTP3. C'est expérimental. Il y a des filtres basés sur les annotations, je sais pas trop ce que c'est. Le HTTP client par défaut utilise maintenant le HTTP client de Java. Donc il y a un support d'OpenAPI, la génération de clients et de serveurs en Micronautes est supportée. Donc à partir d'un fichier OpenAPI qu'on a défini, on peut créer aussi bien un client qu'un serveur Micronautes. Alors côté YAML, je ne sais pas ce qu'ils utilisent à la place. Pour le support de YAML dans les fichiers de configuration, tout ça, ça a utilisé Snake YAML qui a souvent été mentionné pour des problèmes de failles de sécurité. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça utilise à la place, mais en tout cas, ça n'utilise pas. Ou en tout cas, la dépendance Snake YAML n'est pas activée par défaut, en tout cas minima. Ensuite il y a la transition vers Jakarta qui est terminée, donc vous savez les annotations Jakarta.machin, donc là maintenant par défaut ça utilise que ces annotations, enfin que ce package là. Et après voilà, il y a eu plein d'autres mises à jour côté module. Il y a un bon article aussi sur InfoQ qui parle des nouveautés. Et là j'ai pas mis le lien, mais il y avait Graham Rocher, donc le fondateur de Micronautes, qui avait fait un thread sur Twitter où il listait ses 10 features préférées de Micronautes. Voilà pour Micronautes.
Eh ben, pas mal.
Et si je peux glisser du coup Quarkus, donc on l'avait pas noté là, mais juste rapidement un petit catch-up.
Si tu glisses, fais attention à pas tomber.
Attention à ça.
C'est pas une version majeure, mais il y a eu la 3.1 et 3.2 là depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Donc il y a notamment le support de Apache CXF, donc il y a un Quarkus CXF qui était une grosse demande de gens qui entreprises ont besoin de parler à des vieux machins. Donc ça, du c'est voilà, ça va être bien. On peut implémenter des clients réactifs, alors pas seulement statiquement en disant voilà l'interface qu'on veut utiliser, mais du coup là il y a une version dynamique, on va dire, de ça, donc on peut le faire avec une nouvelle API programmatique. Je crois que c'est les clients réactifs HTTP d'ailleurs. Je suis en train de me dire que j'ai oublié peut-être un peu un concept. Ensuite, ils ont activé la récupération d'analytiques au moment du build. Alors, c'est opt-in, mais au moment de votre build, je crois qu'on vous demande, est-ce que vous êtes OK d'aider la communauté Quarkus en sachant ce que vous utilisez comme extension, quel Java vous utilisez là. Guillaume parlait de la Java 17, aujourd'hui Quarkus c'est 11, ça supporte 11, etc.
Donc ça reste en 11
pour l'instant, ouais.
D'accord.
Et Quarkus vient d'introduire la notion de long-term support, parce que en fait Quarkus ça réalisait à peu près tous les mois à 6 semaines, et puis du coup vous migriez vers la nouvelle version. Donc là, c'est la première, c'est la 3.2, c'est une LTS de 12 mois. Donc on l'essaye, et donner du feedback sur comment ça vous aide ou pas. Alors évidemment, si vous restez là-dessus, après la migration elle sera plus lourde, ça sera 12 fois plus de taf. Donc voilà, c'est un peu deux choix un peu différents. Voilà. Donc plus mineur que tous les annonces autour de Micronautes, mais voilà.
Cool. Okay. Comme dirait le chef. Cool.
C'est ça.
Exactement.
On passe à l'infrastructure. Donc là, cette fois, on ne va pas interroger Emmanuel, puisqu'on va parler de Red Hat. tu vas donc garder le silence. On va parler de Red Hat qui a changé donc sa politique concernant le Red Hat Enterprise.
Je vais garder le silence avec plaisir là-dessus.
Enterprise Linux. Alors après, j'ai lu, mais j'ai pas. Enfin, je suis pas un expert.
Donc, je n'ai pas tout suivi.
Je vous laisserai lire les articles en détail, mais en gros, Red Hat a annoncé courant juin changer sa politique concernant RHEL, donc qui est effectivement utilisé. Red Hat vend le support RHEL à ses clients, etc. Depuis des lustres, mais ils ont décidé de mettre le code source des RPM de RHEL désormais uniquement derrière leur portail client. Donc le problème, c'est qu'il y a eu toutes ces années beaucoup d'initiatives, alors open source et pas que, qui se sont basées sur RHEL, puisque RHEL effectivement est pas mal déployé, et donc ça permettait de construire des choses soit au-dessus de RHEL. Je crois que j'ai vu qu'il y avait des distros, etc., qui ont été reconstruites à partir de RHEL, où il y avait tout simplement le fait de rajouter des choses dans RHEL et donc d'avoir accès aux sources. Donc Patakès pendant le mois de juin, avec pas mal de ping-pong entre la communication de Red Hat, des haters, des moins haters sur le changement de position de Red Hat par rapport à ce choix. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? A priori, donc de toute façon, ils vont pas revenir en arrière. La décision est prise, ferme et définitive. Ils sont Red Hat s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet et a confirmé sa position sur le fait de refermer le code source derrière portail client.
Avant que tu ailles sur les positions là,
oui.
Une petite subtilité. Donc il y a RHEL à un moment où tu pouvais littéralement voir tous les repos Git de tous les packages et du coup tu les prenais. D'ailleurs c'est ce que Oracle fait avec son Oracle Linux qui est une copie de, c'est même pas un fork mais c'est une copie de RHEL. Pareil pour les autres dont on parle, Aroki, Alma, etc. Et il y avait CentOS, et CentOS c'était pareil, c'était le premier clone de RHEL. Et ensuite, il y a eu un truc qui s'appelle CentOS Streams, qui est une version plus à jour. C'est-à-dire que ça va aller un peu au-delà de RHEL et ça va pas garder, en gros, les vieilles versions de RHEL, etc. Parce qu'en fait, la communauté CentOS, ça avait un peu de mal à suivre. Du coup, CentOS Streams a été utilisé pour être l'upstream du produit. C'est-à-dire, il y a Fedora qui est vraiment l'upstream upstream.
Voilà.
Mais après, l'upstream du produit, c'est CentOS Streams. Et puis après, on, les gens prennent de ça pour faire RHEL. Du coup, il y avait plus d'efforts du travail de RHEL qui était fait en ouvert. Et là, ce qui est annoncé, c'est que il y avait un repo, un repo git qui gardait quand même les versions de RHEL du vieux truc, enfin du package avec le patch qui est fait sur la version d'il y a 7 ans, etc. Et c'est ça qui s'en va. C'est-à-dire que le patch, il est là, mais il est là dans CentOS Upstream sur les nouvelles versions, mettons, de PostFix. Et du coup, si tu veux faire le patch et le rétroactiver sur la vieille version de PostFix qu'il y avait dans la vieille version de RHEL, c'est ça qui n'est plus disponible à tous, c'est disponible à tous les, enfin dans la lettre du GPL, elle est disponible aux gens qui à qui on a donné le logiciel, donc elle est disponible sur demande. Voilà.
C'est ça. Il faut avoir un accord avec Red Hat, et c'est là où par contre effectivement Red Hat, enfin quand on dit derrière le service client, il n'y a pas que des clients, il y a des accords aussi entre Red Hat et d'autres partenaires ou autres pour qu'ils continuent d'accéder à ces informations-là. Mais en tout cas, c'est plus aussi simple que d'accéder au repository qu'on avait à l'époque Git.
Disons que pour Oracle et Rocky, Alma et tous les clones, là, ça va être moins facile.
Eux pour
c'est
le coup.
Ce que j'ai compris.
C'est ça. Donc, justement, à ce niveau-là, donc on a mis aussi un article où Oracle donne sa vision, où ils disent ils disent faut garder ça ouvert, hein, quand même, les copains Red Hat, vous faisiez tout le boulot pour nous. C'est ça, vous faisiez tout le boulot.
Assez
maintenant,
rigolo, quand même.
Faut rester open, les gars, c'est pas possible. Il y a un article aussi qui était assez intéressant sur, alors je me rappelle plus lequel c'est, mais où la personne détaillait un peu, parce que ce qui a aussi tourné comme bruit de couloir, c'est ah ouais, mais c'est les vilains d'IBM qui ont fait l'acquisition de Red Hat et qui font que Red Hat, bon bah ils ont. Bon, effectivement, il n'y a aucune preuve dans ce sens-là que IBM ait du tout eu un poids ou même la moindre position là-dessus. Que par contre, Red Hat, effectivement, prenne cette décision pour plein de raisons qu'on peut imaginer, hein, parce que maintenir des choses en open source gratuitement quand on a des gens qui travaillent et qui... C'est toujours compliqué, hein, ce modèle open source, de savoir qu'est-ce qu'on peut donner, offrir versus ce qu'on investit. Voilà, donc qu'ils aient fait ces choix-là. Se tiennent complètement. Oracle Linux, donc eux, ce qu'ils se disent, c'est qu'il continuera à être compatible avec RHEL jusqu'à la version 9.2, et qu'après, bah voilà, ils vont voir ce qu'ils font, qu'ils sont en train d'embaucher des devs Linux. Enfin, vous mettez à bosser, les mecs, vous pouvez plus faire juste un fork, c'est con. Mais bon, je vous aime bien quand même. Et que Oracle demande à IBM de récupérer la main sur le downstream d'Oracle. Bah oui, finalement, autant leur filer le boulot chez IBM. Bon, voilà. Donc, effectivement, bah, ceux qui ont basé des distributions sur RHEL, ça va être plus compliqué. Il y a SUSE aussi qui a annoncé un fork de RHEL. SUSE, c'est eux qui sont derrière Rancher. Notamment, et puis bien sûr SUSE Linux Enterprise, et donc ils annoncent qu'ils vont faire a priori un fork de RHEL et vont gérer la compatibilité comme d'habitude entre RHEL et CentOS. Voilà, donc beaucoup de mouvements dans la presse du fait des annonces de Red Hat. Je vous laisse lire les articles pour avoir tous les détails opération.
Là, t'as parlé des gros, donc c'est des grosses boîtes qui parlent à des grosses boîtes ou à des startups qui avaient fait leur business dessus.
Ouais.
Il y a d'autres articles sur les gens communautaires, là. Donc, Jeff Gerling, par exemple, si vous utilisez un tant soit peu Ansible, vous avez vu ce nom des dizaines et des dizaines de fois, voilà. Donc, lui, il est pas très content, par exemple. Voilà, c'est intéressant de voir aussi le retour des gens un peu dans les tranchées sans que ça soit un peu au-delà du corporatisme.
C'est toujours le même problème de pouvoir après supporter quand on a des produits qui tournent sur des environnements, etc. Quand l'éditeur de base rend difficile l'accès aux sources, l'accès aux produits lui-même, etc. Bah oui, c'est vraiment pas simple. Encore plus quand on bosse sur l'open source où on se dit Red Hat c'est censé être des gentils, puis bah là ils sont plus gentils, alors c'est pas drôle. Voilà. Pas gentil Red Hat. Voilà. Donc voilà, pour la petite histoire Red Hat qui est plus gentille et qui, mais bon, on vous aime quand même, hein. Vous reviendrez dans notre cœur. Voilà, je suis un gros cœur et puis ça reviendra, vous inquiétez pas. On passe au web.
Je ne commenterai pas.
Cette fois, c'est Guillaume. Je vais jamais y arriver quand c'est là. Donc, cette fois, c'est Guillaume qui ne va pas commenter. Il y a Google qui, pareil, donc c'était vers le mois de juin, je crois, a annoncé qu'ils allaient une fois de plus. Cette fois, ils enterrent pas quelque chose, pas complètement. Ils font la donation ou le transfert, la vente plutôt, de leur service de nom de domaine, oui, comme de la vente, de leur nom de domaine.
Tu commentais pas, Guillaume.
Ils n'ont rien vu, c'est juste sur la vidéo. Ils revendent leur service de nom de domaine, puisque donc ils ont un service historique de nom de domaine qui est énormément utilisé, sur toute la partie cloud, etc. Vous pouvez acheter directement vos noms de domaine chez Google en même temps que les autres services. Alors les autres services, ça peut être les Google Workspace, mais ça peut être aussi toute la partie cloud de Google. Donc la partie nom de domaine, au revoir, ils ont dit non, ça suffit, on en a marre de le gérer. Ils la revendent à Squarespace, alors société que je ne connaissais pas personnellement. Hein. Je l'ai découverte en lisant l'article, en voyant les news.
C'est comme les trucs genre Wix, tout ça. Ouais,
exactement, c'est ça.
Facilement des sites internet.
Voilà, en fait, c'est ça que j'ai découvert. C'est une entreprise qui permet de bootstrapper son activité, d'avoir plein de services en ligne, etc. On en reparlera d'ailleurs. Il y a OVH qui fait un peu la même chose, qui essaie de faire la même chose, mais je l'ai mis dans une autre catégorie, loupé. Donc, ils faisaient du Google Workspace. Historiquement, d'ailleurs, ils vendaient dans leur catalogue la suite Google Workspace. Donc, c'est comme ça qu'ils sont très, très proches de Google. Et donc, a priori, la vente devrait se passer d'ici fin Q3. Donc, bien sûr, pareil, pas mal d'articles sur c'est bien, c'est pas bien. Là, on a mis le thread Reddit sur l'acquisition en question. Donc, là, ça va dans tous les sens. Le fait de passer effectivement un service aussi critique à une société plutôt inconnue, ça rassure pas vraiment les gens.
Elle est là depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que leur prix, c'est pas les mêmes.
Les prix, le modèle, donc effectivement, les gens s'intéressent énormément à comment ça va évoluer, parce que où effectivement Google a certainement mal fait son business model là-dessus, que les gens étaient plutôt contents.
Ce qui est curieux, c'est qu'ils arrêtent pas d'acheter des nouvelles top level domaines, tu vois.
C'est
point route, point dans l'espace, tu vois. Et du coup, tu te dis, du coup, tu n'as plus de fournisseur DNS, alors tu fais comment, en fait?
C'est ça. Tu achètes des domaines, mais tu ne veux pas... Bon, bref. Donc, voilà. Donc, une position un peu bizarre. Et puis, une fois de plus, on s'attendait... Ce n'était pas attendu dans le sens où c'était un vrai service payant. Donc, contrairement à d'autres choses où Google a la main, généralement, c'est ça, la main pas très légère de se dire, allez hop, on enterre, on a essayé, ça a pas marché, un de plus dans le graveyard, dans les tombes, cette fois, c'était payant, mais tant pis, ils s'en sont aussi débarrassés. Voilà, donc pareil, Google, on vous aime, mais pas tous les jours, donc ça dépend des choix. Effectivement, encore un pas de côté qui est un peu compliqué à comprendre.
Il y avait un truc qui était rigolo. Bon, après, c'est des principes, mais Google était fondé sur « on vendra jamais les infos de qu'on collecte ». Et puis, grand bien leur face, parce que c'est aussi leur force d'être les seuls à avoir ce genre d'infos. Mais du coup, là, c'est probablement le premier cas où il y aura un transfert d'informations, parce que par définition, il y a des clients, du coup, il faut pouvoir les contacter.
C'est ça. Donc voilà. Donc, Google, on vous aime quand même. Mais c'est pas bien. C'est pas gentil.
Bon, c'est le prochain qui va se faire taper dessus.
Petite introduction. Alors, côté web, donc, cette fois, une petite introduction au web GPU, qui est en français sur le blog de Docto Technologies. C'était toi, Guillaume?
Ouais, c'est moi qui avais rajouté ça. Donc, pour ceux qui souhaitent un petit peu savoir ce que c'est ou ce que ça permet de faire, web GPU aussi par rapport à on connaissait WebGL déjà. Donc il y a aussi faire de la 3D dans son navigateur, c'est une chose. Mais après, par exemple, il y a aussi tout ce qui est machine learning. On va pouvoir utiliser dans le navigateur, faire du machine learning, de l'inférence, en utilisant le GPU. Donc c'est une bonne intro à WebGPU pour savoir un petit peu ce que c'est, ce que ça permet de faire. Et là, c'est vrai que j'ai pas mis le lien, mais il y a aussi Surma, évangéliste web, qui a fait par contre un article sur WebGP super avancé, mais commencez déjà par celui-là. Et après, si vous voulez vraiment creuser plus, il y a un super article de Surma sur aussi WebGPU. Mais c'est vrai que je l'ai pas mis, j'ai pas regardé de près. Celui-là, il est beaucoup plus poilu, techniquement parlant.
Ouais. Okay. Je suis étonné que tu dises que ça va aider pour l'intelligence artificielle aussi, parce que je m'étais dit qu'ils allaient faire un truc d'abstrait. Je pensais que ça aurait été un truc genre Windows DirectX qui est vraiment centré sur le, tu vois, je te donne un polygone, tu vas me le faire super vite. Là, ce que tu dis, c'est que c'est quand même des primitives un peu plus basses pour aller dire exécute-moi l'équivalent
plus basse, moderne, et du coup, tu peux faire des adaptateurs pour des TensorFlow.js, des choses comme ça, qui vont tirer parti directement du GPU grâce aux primitives de WebGPU, quoi. Donc c'est vraiment pas que pour la 3D, mais du coup, vu ce qu'il y a dedans qui permet tout ce qui est calcul matriciel et j'en passe, qui va permettre, et il y a déjà des intégrations, des démos comme ça utilisant WebGPU pour des large language models, des choses comme ça. Et donc pour ceux qui se soucient beaucoup de... on l'a peut-être pas encore beaucoup couvert, ces aspects-là sur les large language models, mais c'est vrai que quand, par exemple, Arnaud, tu sais, tu disais tout à l'heure, ouais, on n'est pas capable de, encore aujourd'hui, d'injecter tout un projet dans le contexte d'un large language model, ceux qui se focalisent sur le code, alors, pour pouvoir faire des refactoring, etc. C'est vrai que, par contre, quand on utilise Copilot, quand on utilise OpenAI, etc., en fait, du coup, on leur envoie notre code. Ça veut dire que notre code reste pas que chez nous. Du coup, ce qui est intéressant côté privacy, côté data, enfin sécurité des données, etc., souveraineté, appelez ça comme vous voulez, le fait de pouvoir faire tourner des choses comme ça sur sa machine, dans une appli web, je pense que ça a quand même pas mal d'intérêt, quoi. Même si, c'est pas la puissance de calcul qu'on peut avoir dans le cloud sur des dernières machines Nvidia, dernier cri, carte graphique, dernier cri, etc. Mais en tout cas, il y a tout un tas de choses avec des modèles bien spécialisés qu'on pourra faire très bien et relativement rapidement au fur et à mesure, en tout cas dans WebGPU, qui est plutôt cool. Voilà. Du coup, on va peut-être d'ailleurs continuer sur le thème, on revient au terme des large language models.
Yep, mais cette fois avec la donnée, donc j'étais étonné, effectivement, j'avais pas vu l'article. Donc cette fois avec Postgres, de l'IA et des LLM dans les bases de données, vas-y.
Donc c'est vrai que un truc qui est vraiment, enfin je trouve nouveau pour moi en tout cas et que j'avais pas vu trop passer ces dernières années, c'est que donc déjà il y a des nouvelles bases de données qui existent, qui sont vraiment des bases de données vectorielles. Qui sont vachement utilisés dans des use cases à base de large language model. En fin de compte, si on regarde aussi de plus près, il y avait déjà des bases existantes qui permettaient, ou des bases de données, ou des services de recherche, je pense par exemple à Elasticsearch, qui supportaient déjà des calculs sur des vecteurs. Alors pourquoi on parle de vecteurs dans ce cas bien particulier ? Parce qu'en fait, il y a cette notion de... Alors, je sais plus si on l'avait couvert dans les derniers épisodes, vu qu'on parle un petit peu plus de ce sujet-là maintenant, mais je vais juste résumer, expliquer brièvement ce que c'est. Donc, on est capable, en fait, de donner une représentation vectorielle, donc un tableau de nombres à virgule, pour représenter du texte, des mots, des images, etc. Et plus... Donc, imaginons, je sais pas moi, le mot... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple le mot ou une expression, par exemple langage de programmation et Java, peut-être qu'ils vont avoir des représentations vectorielles assez proches. L'un est un peu un concept plus spécialisé que l'autre, vu que c'est une instance particulière de l'autre, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, ou les exemples, si, ouais. Un exemple typique, c'est roi et reine et homme et femme. Quand on utilise la représentation, un embedding, ils appellent ça, sous forme de vecteur, du terme roi, qu'on soustrait le vecteur homme et qu'on rajoute le vecteur femme, on va avoir un nouveau vecteur qui va être très proche du vecteur reine. Donc, on s'aperçoit que sémantiquement, des vecteurs, en faisant des calculs de distance, d'angle, etc., de vecteurs, vont être plus proches les uns des autres. Alors, pourquoi c'est important ces text embeddings-là? Parce que les large language models sont capables de calculer des embeddings, des vecteurs, qui représentent des concepts. Le problème avec les large language models, comme Arnaud l'avait dit aussi, c'est que ils ont des contextes assez succincts. Donc, on peut pas mettre tout Internet dans un contexte, même si on a entraîné des large language models sur tout Internet. C'est pas pour autant qu'il a une base de données qui représente Internet dans sa mémoire. Il est capable de générer des choses avec des probabilités, des choses comme ça. Mais il se base pas vraiment sur des faits où il va pas retrouver dans une base de données l'information qu'il essaie de générer statistiquement parlant. Et en fait, donc il y a un pattern qu'on appelle souvent Retrieval Augmented Generation, RAG, où en fait, on va fournir au contexte du Large Language Model des choses qu'on a stockées dans une base de données vectorielle. Par exemple, je vais mettre dans ma base de données vectorielle les documents sur lesquels je veux que... Je vais demander à ChatGPT, à je ne sais pas trop quel autre modèle, peu importe, va regarder dans ces documents-là et trouve-moi la réponse à la question que je veux te poser. Donc, par exemple, on lui donne les résultats financiers d'une entreprise. Bah, tiens, dis-moi quels sont... je sais pas, le revenu de la société en regardant dans ce document-là. Et ben en fait, le language model est capable de chercher dans la base vectorielle... Enfin, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. En fait, on va créer une requête... Enfin, on va créer un contexte qu'on va donner au large language model qui va... Avant, on a cherché, en fait, dans la base vectorielle des choses qui ressemblent à la requête qui est envoyée. On va trouver des articles et on va l'intégrer, l'insérer dans le contexte pour dire, tiens, donne-moi la réponse à la question à partir de ces extraits que j'ai trouvés dans tous ces documents-là. Bon, voilà, grosso modo, j'espère que je ne l'ai pas trop mal expliqué, je me mélange un petit peu les pinceaux.
Du coup, je peux te poser une question ?
Ouais. Ouais, vas-y.
Naïvement, moi, ce que j'aurais dit, c'est qu'ils prennent la question, ils la transforment en vecteur.
Oui, les vecteurs, comme en fait, ça que j'aurais dû l'expliquer.
On pourrait dire que ça représente des mots, mais c'est pas vrai, c'est des mots en relation à la distance d'autres mots ou... Ça peut être est-ce qu'ils se ressemblent beaucoup ou pas. Je pense pas que ça joue vraiment là-dedans, mais en fait, c'est pour ça qu'on parle de vecteur, c'est que c'est en gros la distance dans l'univers de tous les documents que j'ai vus.
Ouais, et de la sémantique des.
Voilà, oui, alors et après on peut rajouter, c'est-à-dire que le LLM, il peut avoir un peu de magique et de dire bah tiens moi je sais que sémantiquement, enfin je quelque part j'arrive à trouver que sémantiquement homme et femme c'est assez proche et du coup je le représente de manière vectorielle. Ce concept.
Ouais.
Faux. Ok. Donc ouais, en fait, ouais. Je me serais dit, on prend la question, on en fait un vecteur. On prend la liste des documents.
On compare le vecteur de la question à tous ces documents. Et en fait, en général, ouais. D'ailleurs, on split les documents en plus petits morceaux.
D'accord.
Donc on compare. On prend un document, donc on va le splitter en général avec des morceaux de max 1000 tokens, 1000 caractères. Enfin, en général, ça a l'air d'être le truc le plus commun. Et on va comparer le vecteur correspondant à la requête, la question, quel est le résultat financier de l'entreprise, machin. Je regarde dans tous les vecteurs associés à ce document, tous ces bouts de 1000 caractères, et on va essayer de trouver les vecteurs les plus proches. Et pour ça, donc, il y a des algorithmes, approximated nearest neighbor, etc., il y a différents algorithmes qui sont supportés par différentes bases de données, etc. Par exemple, Lucene, il y a une intégration particulière. Dans PGVector, l'extension pour PostgreSQL, c'est un autre algorithme, etc. Et donc, on compare vraiment ces vecteurs-là. On retrouve tous les vecteurs qui sont les plus proches de sa requête. On les injecte dans la requête qu'on va envoyer au Large Language Model. Et on va lui faire une sorte de prompt en lui disant, alors voilà, j'ai trouvé... ces trois documents avec cet extrait-là, cet extrait-là, cet extrait-là. Dis-moi à partir de ces informations quel est le résultat financier de l'entreprise. Et en fait, dans le contexte, normalement, il devrait y avoir l'information pertinente sans qu'on ait à passer tous les documents directement dans le contexte. De toute façon, ça tiendrait pas vu qu'on a des contextes D'accord. limités. Donc du coup, c'est pour ça. On rajoute une mémoire, on donne Ouais. pas toute l'info, on rajoute une mémoire externe. À un large language model, parce que lui, le large language model, il a des statistiques, le réseau neuronal l'aide à créer des stats. C'est probable que le prochain mot, ce sera ça, mais en fait, il n'est pas capable de dire d'où est-ce que j'ai appris que la probabilité que le prochain mot soit ça, bah, c'est effectivement ça. D'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas, tu vois. Donc là, en anglais, ils disent c'est grounding, tu vois, tu ground ta réponse par rapport à des vrais faits qu'on a trouvés dans la base vectorielle. Ça, voilà, c'est un pattern qu'on retrouve beaucoup donc dans les projets, les produits comme LangChain, etc. Ils utilisent ça beaucoup. Et du coup, donc, on parle de PostgreSQL parce que justement, PostgreSQL a rajouté au travers. Enfin, il y a d'ailleurs, il n'y a pas qu'une extension à PostgreSQL. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, celle qui a peut-être le plus de, qui est la plus connue, en tout cas, qui s'appelle PGVector, donc qui rajoute le support de vecteurs de nombres flottants à PostgreSQL, et donc qui permet d'utiliser PostgreSQL. Si vous utilisez déjà PostgreSQL, ben vous pouvez aussi faire de la recherche pour vos large language models, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et justement, ben, il y a des acteurs, ben, typiquement comme Google Cloud. Là, on a annoncé là récemment que dans nos deux bases de données qui se basent, enfin ou qui ont une intégration avec PostgreSQL, c'est-à-dire Cloud SQL et AlloyDB, ces deux bases de données-là supportent et utilisent PostgreSQL, et on a rajouté le support de l'extension PGVector dans ce produit-là. On est capable... ce qui est intéressant aussi, hein, par rapport aux bases vectorielles, enfin, pas toutes ne le font pas, mais les bases vectorielles pures, les nouveaux players qui existent depuis ces deux, trois dernières années, qui ont reçu beaucoup d'argent de venture capitalistes, etc. On n'a pas forcément toute la richesse, de requêtes qu'on peut faire avec une base de données relationnelle classique. Tandis que là, on va pouvoir avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire, ben, je vais pouvoir faire une recherche vectorielle, mais en étant capable aussi de filtrer avec des critères classiques, c'est-à-dire, ben, je vais filtrer par, nom de mon client, nom de produit, peu importe le critère que vous avez dans vos bases de données, mais on va pouvoir combiner des requêtes classiques, relationnelles, avec des vecteurs. Et donc voilà, il y a pas mal de choses là-dessus qui sont proposées, il y a des vidéos, il y a des notebooks dans Colab qui permettent de jouer avec cette intégration-là, et on a aussi contribué, j'avais mentionné le projet LangChain, qui est un truc super à la mode, qui est en Python, et il y a une variante JavaScript, mais qui n'est pas aussi poussée, qui permet en fait d'enchaîner tout plein de LLM, des bases vectorielles, des outils, des choses comme ça. Donc c'est une sorte d'outil d'orchestration pour Large Language Model. Donc on a aussi proposé une intégration dans LangChain par rapport à ça. Et j'ai rajouté aussi un petit lien, alors c'est un article peut-être un peu poilu et j'ai pas forcément tout compris, mais dans Elasticsearch, il y avait déjà le support depuis quelques années du vectoriel, mais c'était encore limité en termes de taille, c'est-à-dire on pouvait avoir que des petits vecteurs. Donc par exemple, alors je sais plus que je dise pas de bêtises, je crois que quand on utilise OpenAI, ChatGPT, tout ça, les vecteurs, je crois que c'est des vecteurs de 512, et genre Lucene était limité à 400 ou un truc comme ça. Et par exemple côté Google, je crois que c'est des vecteurs de les trois quarts 2024, ça fait combien? 768, c'est ça? 768 cases dans votre petit vecteur. Et là, donc dans Lucene, ils ont agrandi encore la taille des vecteurs. Et là, surtout, l'article que j'ai mis, il parle des instructions SIMD, S-I-M-D, pour accélérer les...
J'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a un lien entre les paramètres et les vecteurs?
Alors non, en fait, les paramètres, c'est vraiment le... En fait, la quantité de texte sur laquelle ça a été, ton modèle a été entraîné. Donc, par exemple, quand on dit, tu vois, tout à l'heure, on parlait de GPT-4. Lui, il a été entraîné sur, je sais plus, c'était combien, un trillion,
enfin, 220 milliards.
Non, 8, donc un trillion de paramètres, mais c'était de 8 à 220 milliards, voilà. Donc c'est pas, et ça c'est des paramètres, c'est-à-dire le nombre de tokens, donc c'est pas tout à fait équivalent au nombre de mots, hein, mais c'est proche, le nombre de mots sur lequel ça a été entraîné. Ensuite, effectivement, les embeddings, ouais, c'est pas la, c'est une autre dimension, quoi. C'est un autre critère. Et après, il y a la taille du contexte, ce qui est en input, et aussi la taille en output, qui est encore différente, etc. Et par exemple, là, le record, je crois, c'est le modèle Claude 2, je crois que c'est Anthropique qui font ça, ouais, qui ont des contextes qui permettent de, en entrée, tu peux lui donner 100 000 tokens, donc ce qui fait que des livres, des petits livres peuvent rentrer entièrement dans un contexte en entrée, mais ce qui n'était pas possible encore, par exemple, donc sur GPT-4, je crois que la limite est à 32, je crois que dans le modèle que nous, on met, en tout cas dans Google Cloud, je crois qu'il est limité à 8K, si je dis pas de bêtises. Là, c'est des caractères, c'est pas des tokens. Enfin, chacun calcule les choses différentes. Mais voilà, il y a différents paramètres, différents nombres qui rentrent en ligne de compte et ils sont pas forcément liés, en fait. Voilà.
D'accord. Donc, désolé, tu parlais qu'ils allaient utiliser les single instruction multiple data, ouais, pour travailler sur les vecteurs.
Donc, ce qui permet, Elastic qui utilise Lucene pour ce support vectoriel-là, bah, ça accélère encore les calculs vectoriels. Donc, il y a différentes manières, hein, de faire des comparaisons de vecteurs, produits scalaires, distance euclidienne, similarité cosinus. Tout ça, c'est supporté dans Lucene, niveau distance. Et voilà, et c'est bien, bien plus accéléré. Donc, c'est assez pointu comme article sur le sujet.
On va passer à l'outillage. Il y a pas mal d'articles. Pour ailleurs, certains articles, je savais pas trop où les mettre. Alors, je les ai mis dans les outillages dès qu'il y avait la mention d'un outil. Donc, on va les revoir certains assez rapidement. Le premier article, c'est un sondage de Stack Overflow 2023. C'est leur sondage qu'ils font tous les ans pour essayer d'évaluer c'est quoi leur population, qu'est-ce qu'ils utilisent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Alors c'est très rigolo, en parlant d'IA, je me suis dit, oh mince, il est long et puis il faut tout lire, etc., qu'est-ce que je vais retenir. Je me suis dit, tiens, vu que Bart, le fameux IA de Google, est dispo, je lui ai dit, bah tiens, je vais lui demander, résume-moi le lien en question. Bon, bah ok, je suis retourné faire mon résumé moi-même, hein, parce que bon, Bart, alors voilà, c'est bien, mais non, il raconte de la merde.
C'était Bart, donc, Simpson peut-être, c'était
voilà,
pas Bart.
Ça devait être Bart Simpson et pas Bard, mais voilà, donc bon, bah loupé. Après, j'ai pas essayé avec les autres, j'aurais peut-être dû essayer Bing, etc., voir s'ils faisaient mieux. J'ai fait mon petit résumé tout seul. Résumé très très rapide, hein, parce que le truc il fait je sais pas combien de pages, il y a 50 millions de critères de techno évalués pour essayer de les positionner les unes par rapport aux autres, donc j'en ai pris qu'une infime partie. Je vous dirai à la fin si vous envoyez d'autres qui étaient utiles, Guillaume et Manu. Mais donc en gros, le sondage, c'est 90 000 développeurs environ qui ont répondu pour 185 pays représentés. Qu'est-ce qu'on retient? Ben, on retient que par rapport à l'année dernière, en termes de là où on travaille, ben, il y a quand même une augmentation de 2% des personnes qui vont travailler sur site en plus, hein. Ah oui, le fameux back to the office, il a quand même son petit effet. Mais cependant, ben, on reste aujourd'hui, hein, sur, pareil, donc dans cette population de développeurs, hein, qui est certainement pas représentative, hein, soyons clairs, on reste sur du 16% qui va sur site en temps plein, 41% en remote et 42% en hybride. Les développeurs sont de plus en plus à utiliser les IA, bah, c'est étonnant. 70% d'entre eux disent qu'ils l'ont ou qu'ils vont l'utiliser. Alors effectivement, quand on regarde en détail, c'est 44% qui disent l'utiliser déjà et 25% qui veulent l'utiliser.
Moi, je suis impressionné quand même, 44%, c'est énorme.
C'est énorme, 44%. Mais pareil, je pense qu'une fois de plus, l'auditoire Stack Overflow, c'est compliqué de l'évaluer. Je ne sais pas trop la représentativité.
Bah, quand on voit, bon, Google, vous avez votre propre truc. Mais Apple qui, vous n'utilisez pas. Nous, c'est, vous n'utilisez pas.
Moi, c'est pareil. Hein. Vous n'utilisez pas. Nous, c'est pas, c'est clair. Donc, effectivement, 44%, c'est assez énorme. Les langages de programmation les plus populaires remontés donc en global, parce qu'après vous avez des dispatchs pour les développeurs professionnels, les développeurs non professionnels, machin, bon, ça devient compliqué, mais en global, les plus populaires donc sur Stack Overflow, c'est JavaScript, Python et HTML, CSS, si on les considère comme langage. Les frameworks web les plus populaires, c'est Node, React et jQuery. Je sais plus si c'est dans l'ordre d'ailleurs, je crois pas. Les bases de données, Postgres, MySQL et SQLite. SQLite, SQLite, enfin français, Lite. Les systèmes d'exploitation, bah là c'est vite fait, il y en a que trois en général. Donc, mais bon, on voit quand même que c'est Windows qui est toujours en tête à 40 et quelques pourcents de mémoire. Je l'ai pas noté dans l'article, mais je crois que c'est 40 et quelques pourcents quand même de développeurs sous Windows, suivi d'une grosse vingtaine de pourcents, je crois, sur Mac. Enfin, une vingtaine de pourcents sur Mac et puis le reste sur des environnements divers, mais dont Linux. Mais alors, comme Linux, c'est très splitté.
Mais d'ailleurs, c'est dans ce sondage-là où il disait que Linux avait atteint 3% de part de marché Linux desktop ou pas.
Donc, je sais plus.
Parce que j'ai vu passer ça là. Donc il paraîtrait que ce serait vraiment l'année de Linux sur le desktop. Wow. Ils ont enfin dépassé 3%. Wow. Donc, je sais pas.
Impressionnant. je sais pas, j'ai pas vu effectivement. Mais alors, je te dis, vu la taille de l'article.
Ouais.
Et puis les IDE, puisque c'est un truc qui nous intéresse. Bon, bah, Visual Studio Code et Visual Studio sont quand même les outils les plus utilisés. Et IDE, IntelliJ. Donc j'imagine qu'il y a plein de javaïstes qui ont produit au sondage, voilà. Donc ça, c'était les trucs les plus marquants que j'ai vus qui traînaient, mais voilà, il y a, je sais pas combien de pages de statistiques sur la communauté Stack Overflow. Vous aviez des points que vous aviez notés de votre côté sur l'article ou pas ou...
Non, c'est cool. Après, je me dis, ouais, ça a l'air d'être quand même pas mal, peut-être plus de développeurs front-end, etc., quand même, non, je sais pas. Ou alors c'est parce que vraiment moi je crois qu'en fait il y a plus de développeurs back-end que de développeurs front-end et j'ai une vue biaisée, je sais pas.
Non, mais c'est surtout qu'il y a les choux et les carottes parce que tu mets tu mets TensorFlow avec Spring, avec Kafka, voilà. Et tout ça, c'est
pour ça qu'il y a certaines catégories, je les ai même pas remontées parce que je savais même pas quoi en dire tellement effectivement, enfin il y a des trucs qui sont un peu mélangés que je dis ouais mais alors ça veut dire quoi en fait, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, donc c'est pour ça que je me suis limité à des trucs un peu simples.
Yes.
Allez, on continue.
On va parler d'un vrai IDE là, enfin.
On va parler d'un vrai IDE qui doit être listé, hein, mais je sais pas quel niveau il est dans le sondage. Donc on va parler de Vim, et donc un article, bah oui. Je sais pas lequel de vous deux l'a rajouté, parce que je sais que vous êtes fan de tous
Vim,
les deux.
Vim était numéro 4 ou 5 hein, dans les trucs.
Ah, quand même.
Il y avait Notepad++ et après Vim, en dessous des trois que tu avais listés.
Et donc, il faut bien un article au moins de 15 pages pour expliquer comment naviguer les différents
comment
types de déplacements
dans
Vim avec son curseur. Vas-y, Guillaume, je te laisse.
Bah, alors, déjà, premièrement, honnêtement, même si vous n'utilisez pas Vim, allez voir le site, le lien que j'ai mis, parce que je trouve qu'il est beau. Alors, j'aime bien avec ses fontes pixelisées et tout ça, c'est vraiment trop beau. Et ce que j'aime bien en fait, c'est tous les screens. Donc, il explique bien tous les mouvements que tu peux faire, tu sais, d'aller de gauche à droite ou en bas, mais aussi de mot en mot, début, fin de mot, etc. Et en fait, tout est bien illustré à chaque fois avec une belle image pour dire, bah voilà, si tu tapes sur W, tu étais à tel endroit, tu arrives à tel autre endroit. Donc, tu peux te déplacer par mot, par donc avec ou sans la ponctuation, en avant, en arrière, ou si tu veux aller trouver un caractère particulier que tu sais qui est devant, genre tu veux aller vite à une parenthèse, bah tu fais F parenthèse, comme si tu faisais find parenthèse. Il parle, alors attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, donc ça, il parle aussi des notions de... j'aime bien là des notes, des mélodies et des accords, c'est-à-dire comment tu peux composer en fait les choses, comment bouger verticalement, enfin mais tout est très très clairement expliqué. Mon problème comme toujours avec Vim, c'est que je lis ça, je me trouve d'un seul coup plus intelligent et capable d'utiliser Vim, et à chaque fois je les oublie tous ces trucs là. Ouais. Et donc ça fait du bien de réviser un peu, parce qu'à chaque fois je fais des W, des B, des trucs comme ça, et j'oublie les 90% de ce qui est dans cet article là. Mais il est très beau, très bien fait, très bien expliqué. Donc si vous voulez l'utiliser, alors maîtrisez Vim, mais ça peut être aussi le support. Par exemple, dans VS Code ou dans IntelliJ, etc., il y a des plugins pour avoir les mouvements, comme dans Vim. Donc, si vous utilisez ces plugins-là, vous apprendrez aussi comment mieux vous déplacer dans votre code. Voilà, un beau petit, bel article. J'aime bien.
Je sais pas si je suis impressionné ou terrorisé quand je vois l'article. Et que je vois la...
Et bon, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à... C'est ça, connaître par cœur. T'es obligé de connaître par cœur tous ces raccourcis.
Et si tu pratiques pas régulièrement, enfin, tu les oublies. Moi, je connais les oublies. De base. Et encore, certainement base plus plus, parce que j'en fais pas mal, mais effectivement, enfin, je suis à, je sais pas, je digère quoi, 10% peut-être de son article. Enfin, il y a 3, 4,
j'ai une question, tiens, pour vous. Qu'est-ce que vous utilisez? Parce que moi, au quotidien, en fait, j'utilise vraiment trois trucs. C'est-à-dire, dès que je fais un projet un petit peu plus conséquent, je vais utiliser IntelliJ IDEA parce que c'est lui qui aura la meilleure navigation, le meilleur refactoring, etc. Quand je vais faire des fois des petites démos avec du Node.js ou des trucs comme ça, bah, je suis souvent dans Visual Studio Code. Et par contre, dès que je suis dans mon terminal ou je suis sur un serveur ou des choses comme ça, bah, là, par contre, je vais faire du Vim. Mais ça va être plus pour éditer des fichiers de configuration, des choses comme ça. Et pas forcément, du coup, on va dire une utilisation très, très avancée non plus de Vim. C'est plus pour moi un éditeur de texte. Donc, c'est marrant parce que j'utilise quand même les trois. Au lieu d'utiliser, je sais pas, un seul outil, bah, j'en utilise trois différents un petit peu suivant les cas d'utilisation, tu vois.
Moi, en gros, quand c'est un petit projet Java, c'est VS Code. Quand c'est Cro, c'est peut-être plutôt IntelliJ, mais c'est vraiment mon historique.
J'ai encore la mémoire avec ces outils-là.
Musculaire.
Pareil.
Et en gros, tout ce qui est non Java, et sur ces deux-là, je mets le mode Vim.
D'accord.
Donc, en fait, j'ai la navigation. Alors, peut-être pas tout ce qu'il a décrit là, mais j'ai une bonne partie de la navigation. Et j'utilise Vim proper pour tout ce qui est non Java en fait. Quand je fais un peu de Ruby ou de Python ou de Bash, j'ai tendance à faire ça. Et après la doc, quand c'est pas dans Google Doc, j'ai tendance à utiliser Vim aussi.
D'accord.
Pour l'éditer. Ouais.
Cool.
D'accord. Non, moi je suis plus pour comme Guillaume effectivement. Si vraiment c'est un projet structuré, enfin long terme machin, etc. C'est un IDE. Alors aujourd'hui c'est plutôt RubyMine qui IntelliJ, mais chacun a ses défauts. C'est quand même moins puissant hein, pour le coup RubyMine qui IntelliJ. Le langage n'aide pas. Donc après ouais plutôt VS Code, VS Code pour tout ce qui est généraliste. Et effectivement j'utilise autant pour éditer des fichiers qui traînent sur mon disque que des micro projets que j'ai pas envie de monter dans un IDE que j'ai pas besoin. Et après ouais le Vim je sors que quand c'est du très ponctuel sur du fichier de texte, soit en remote, même en local des fois, mais vraiment sur des trucs très simples que je sais que je vais pas reformater un truc complet. Mais après, je trouve que j'utilise quand même de plus en plus VS Code en tant qu'éditeur multi-tout avec 50 millions de plugins, avec Copilot qui finit mes phrases, etc. Ça, je l'utilise quand même de plus en plus parce qu'effectivement, bon, voilà, avec la pléthore de plugins qu'il a, etc. Mais pour le coup, si je fais un vrai projet, genre un vrai projet Java, comme là, je bosse, je regarde un peu le code de Stéphane Janssen sur le CFP de DevOps, là, je le monte dans un vrai IDE, parce que monter ça dans VS Code, c'est galère, à mon sens.
Ouais, c'est vrai que moi, mes travaux Ansible, en fait, quand il y a beaucoup de hiérarchie, c'est, bon, Vim, c'est un peu pénible de bouger, de naviguer entre les fichiers, voilà, c'est... Je sais pas si c'est pénible, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à passer le chemin. Du coup, VS Code, qui a au moins sa structure hiérarchique de navigation, là, bon, ça aide.
Allez, on va continuer. On parlait de JetBrains, d'IntelliJ ou de RubyMine. Et, comme tout le monde, faut faire de l'IA. Donc, on parlait aussi de Copilot tout à l'heure, mais donc ils ont sorti leurs propres assistants de JetBrains pour leurs outils, pour leurs IDE. Je sais pas qui avait rajouté l'article.
Je crois que c'est moi qui ai rajouté ça. Donc, alors j'ai pas testé. Hein, je sais pas trop comment on fait pour l'utiliser. Et j'ai lu l'article qu'ils font un compte spécial JetBrains, voilà. Et éventuellement, du coup, un compte OpenAI, j'enlève un P, c'est OpenAI, c'est bien, pour pouvoir avoir accès à tout ça. Mais en tout cas, ils ont aussi apparemment entraîné leur propre petit large language model. En tout cas, des large language models bien spécifiques à la compréhension du code. Je serais curieux de voir sur quoi ils ont entraîné ça. Je crois pas que l'article mentionnait. Du coup, on va retrouver donc un peu comme la mode copilote, hein, de toute façon, donc un chat intégré pour discuter avec l'assistant. Donc la possibilité aussi d'intégrer des bouts de code qu'on trouve dans le curseur et dire bah tiens, tu me les injectes là. On va pouvoir, j'avais déjà utilisé des petits outils comme ça en ligne là qui faisaient, en fait, tu sais, tu sélectionnes du code et tu lui demandes, bah tiens, explique-moi ce que fait ce code là. Alors des fois c'est vrai, ouais, que ceux que j'avais utilisés, des fois c'est un peu, bon bah il met la valeur machin dans la variable, ouais super, ça je le vois, c'est un peu immédiat, mais des fois c'est quand même capable de te, enfin on a vraiment l'impression qu'il comprend le code, c'est quand même assez impressionnant. Alors qu'en fait, en vrai, il le comprend pas vraiment, mais on a l'impression que c'est le cas. Et du coup, capable aussi des fois de suggérer des refactoring, des améliorations, de voir des problèmes potentiels. Donc, on peut même lui demander, ouais, il y a un truc qui marche pas dans ce code là. Est-ce que tu pourrais trouver un problème? Et ben, a priori, il est capable de le trouver. On peut lui demander de générer aussi la javadoc à partir d'une méthode, d'une classe, de suggérer un bon nom
si,
de.
Si c'est comme ton
méthode.
Collègue, tu lui demandes, tiens, tu peux pas trouver le problème et il va te trouver, il va t'expliquer pourquoi. Tu cherches, ouais, le mauvais problème et en fait, il va trouver un autre.
C'est ça. Il est capable aussi de même de générer tes messages de commit en fonction des changements que tu as fait en local, ce qui est plutôt cool. Alors, c'est vrai que des fois, on fait des messages de commit qui sont pas... qui expliquent ce qu'on a fait, mais c'est tellement bête que c'est un peu chiant de les écrire. Mais bon, là, au moins, il te le génère pour toi et puis après, tu peux le retoucher. Mais en tout cas, voilà, comme tu disais, ouais, il faut avoir un compte JetBrains AI. Alors, ça doit être un compte spécial JetBrains qui supporte ça, quoi.
Je sais pas si avec nos licences open source, on y a accès, mais j'ai pas testé non plus, effectivement. Et, mais c'est vrai que voilà, enfin, donc, un compétiteur par rapport à des Copilot, etc. Moi, je teste Copilot en ce moment et notamment, les versions CopilotX avec, leur gestionnaire de, enfin, pour justement aussi gérer des messages de commit, enfin, ou de pull request plutôt, chez eux. Et c'est vrai que c'est assez, enfin, des fois, effectivement, ça fait des trucs, bon, bref, tu sers à rien. Et des fois, tu vois la lumière, tu dis, waouh, c'est bien. Et ça te fait des walkthroughs, ça t'explique step by step. Bah, tiens, dans cette PR, il y a, donc il a changé ceci. Alors, lien numéro 1, 2, 3, pouf, pouf, pouf. Il a fait cela. Poum, il t'explique tout. Il te dit, et puis bon, il te fait l'intent de la PR. Il a changé ci, ça. Des fois, tu te dis, ah ouais, quand même. Ah ouais. Mais bon, c'est assez variable, en fait. Ça dépend vraiment, du type de code, du contexte qu'il arrive à choper, etc. Mais en tout cas, je pense, je reste persuadé que c'est vraiment un accélérateur pour nous tous, parce que voilà, il y a plein de choses où ça rend service, bon, à condition de pouvoir l'utiliser, hein. Ça dépend des entreprises et des contextes. On peut pas tous utiliser les IA on voudrait. On passe à un autre article, des commandes macOS plus ou moins connues. Bon, on va les passer rapidement. Enfin, c'est des commandes ou des outils plutôt, parce qu'il faut les installer en général en plus.
Là, c'est des outils en ligne de commande qui sont déjà intégrés à macOS. Hein. C'est pas des trucs que tu rajoutes en plus.
Et par défaut, Caffeinate, t'es sûr?
Ouais.
Moi, je crois que je l'ai installé avant. Ah bon? Parce que bon, effectivement, Caffeinate.
Je crois. Regardez le Mac éveillé.
Voilà, pour le Mac éveillé, ça j'utilise souvent. PBCopy, PBPaste, donc ça c'est pour interagir avec le clipboard en ligne de commande. Network Quality, j'avais jamais vu.
Attendez les enfants, parce que.
Oh là.
Ça fait quoi, Caffeinate?
Ah, ça te permet de suspendre ta veille, de mettre en sorte que ta veille.
Qui se mette pas en veille quand tu fais quelque chose.
Okay.
Là, par exemple, j'utilise pas ça, j'utilise l'ancien, un autre truc concurrent qui existe depuis très longtemps qui s'appelle Amphétamine. Donc, d'ailleurs, Apple voulait le jeter, celui-là, à cause de son nom. Mais voilà, ça permet de suspendre le mode veille que tu as configuré par défaut sur ta machine.
D'accord.
Parce que sinon, là, ça se met en veille quand je parle et que je vous regarde. Network Quality, donc, pour vérifier. Donc,
c'est comme un speed test classique pour connaître quelle est la rapidité de ton accès à Internet.
Alors, SIPS, je connaissais pas non plus pour manipuler les images, pour redimensionner, manipuler les images.
Ce qui est pratique, des fois, tu sais, tu as ton blog, tu veux pas mettre t'as fait un gros screenshot et tu veux automatiquement avoir des images de 600 par je sais pas quoi, bah, tu peux utiliser ça.
Texte utile pour convertir les fichiers.
La conversion de fichiers, Word, texte, HTML. Et screen capture, par exemple, je l'ai utilisé dans des scripts pour automatiser le fait de faire des screenshots. Donc, j'avais tout un processus. J'avais créé, en fait, un raccourci clavier qui appelait un script qui faisait des screen capture. Donc, je faisais deux, trois trucs avec une interface, peu importe ce que je faisais. Je faisais mon raccourci clavier et paf, il me prenait les bons screenshots aux bons endroits. Parce que des fois, tu sais, tu veux faire le même screenshot avec la même fenêtre exactement, c'est super galère à faire. Là, moi, je l'avais fait, je lui ai dit, tu me prends toujours de ce point-là à ce point-là, tu me fais ce rectangle-là. Et du coup, j'avais des screenshots parfaits, de la bonne taille et tout. Très pratique.
Ouais. Pas mal, pas mal. Et le dernier, qui est assez connu, le Say. Enfin, je pense qu'il est assez connu pour faire parler l'ordinateur. On lui donne une phrase, il l'a dit.
Mais honnêtement, c'est cool. Tu sais, des fois, tu as un build ou un truc qui est long et tu lui dis Say à la fin. Hey, le build est fini. Et tu l'entends et tu peux revenir et voir ce que c'est. Moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois.
C'est ça. Oui, je le fais dans certains de mes scripts qui sont un peu trop longs aussi. Des fois, je mets ça. Voilà. Alors. Je l'ai mis dans la catégorie outillage, même si c'est pas directement de l'outillage. C'était un sondage de la communauté Argo CD. Pour ceux qui connaissent pas Argo CD, donc c'est un outil, c'est un outil dans la logique GitOps, donc définition as code de vos déploiements applicatifs. Donc vous êtes sur Kubernetes, donc vous allez être capable d'expliquer comment déployer votre application, comment mettre les ressources, etc. Mais tout ça en déclaratif. Et donc ils ont fait un sondage sur leur communauté pour savoir si tout le monde était content et qu'ils utilisaient avec Argo CD. Je passe les détails parce que l'heure tourne, mais si vous intéressez à Argo CD, vous aurez une meilleure vision de leurs utilisateurs et de ce qu'ils font.
Je suis assez étonné. Alors, je suis pas étonné que genre 40% ça soit les DevOps engineers. Et par contre, je suis quand même assez étonné que le application ou le software engineer ça soit que 5% de leurs utilisateurs.
Ouais.
Alors que le platform engineers, qui est quand même reste quand même un truc un peu mythique dans pas mal d'organisations, ça soit à un quart. Ergo, c'est quand même pas mal utilisé. Hein.
C'est ça.
Donc après, peut-être qu'il y a un biais dans le...
Je pense qu'il y a peu de réponses. Enfin, j'avais regardé, je ne sais plus, mais le nombre de répondants n'est pas non plus foufou. Donc c'est pour ça que je me demande.
Ah oui, 130. Oui, 134. Oui, d'accord. Okay. Ouais,
tu vois, c'est quand même petit sondage et donc lié à leurs utilisateurs. Donc voilà. Un autre article. Non, pas un article. Un outil que j'ai vu passer. Insomnia, un projet open source qui permet de faire, d'avoir un client graphique pour alors GraphQL, REST, WebSocket, ServerSent, ServerSent Event, c'est gRPC. C'est dans la lignée de comment qui s'appelait cet outil-là qu'on que j'utilisais beaucoup avant.
Postman.
Oui, Postman, voilà. Mais Postman, je sais que moi, je m'en suis aussi détaché parce que ça m'énervait qu'il fallait tout le temps se connecter, qu'il fallait se créer un compte, ça m'a saoulé un peu. Mais donc là, c'est la même chose en version open source. Alors, il y a quand même la possibilité de créer un compte pour partager, faire un truc d'entreprise, faire des partages, etc. Mais c'est optionnel, tu peux très bien rester en mode local. Voilà. Passons à l'architecture. Un article donc sur moderniser l'architecture avec la découverte via le domain driven discovery. Alors, je vais le passer très vite parce que l'article est super super long, mais j'ai trouvé intéressant pour le coup. C'est un article step by step où ils expliquent comment utiliser le DDD, mais donc cette fois en version discovery pour essayer de définir comment moderniser une architecture. Et donc ils partent en quatre étapes avec encadrer le problème, donc en gros définir le problème, c'est quoi le problème que vous voulez résoudre, les personnes touchées, etc. L'analyse de l'état actuel, donc justement vérifier les process, l'architecture des systèmes existants et tout ça. Explorer l'état futur, donc là où est-ce qu'on veut aller, donc définir l'architecture cible, les priorités de qu'est-ce qui doit être fait, etc. dans tel ordre. Et ensuite, faire un backlog, une feuille de route, donc un backlog pour réussir à définir l'implémentation de tout ça. Voilà, en 3 secondes, le résumé d'un article qui fait quand même bien quelques pages.
C'est plus fort que ChatGPT, hein, quand même.
Là, pour le coup, je suis plus fort que ChatGPT. Mais donc intéressant si vous voulez regarder sur comment refactorer une architecture, moderniser une architecture en essayant d'utiliser au mieux les principes DDD, le DDD avec Discovery. Voilà.
L'autre D.
L'autre D, mais qui est lié au domaine design. Un nouveau blog chez Sphere qui a lancé son blog sur le orienté développement.
Son blog tech là, j'ai regardé là. Et donc c'est récent. Ils n'avaient pas de blog avant, blog dev en tout cas. Et il y a plein d'articles techniques qui sont plutôt sympas. Ils couvrent pas mal de thèmes, le front-end, le back-end, le cloud, data, AI, ML, mobile, donc vraiment tous les thèmes qu'on peut imaginer. Ils parlent aussi de tendances, aussi un petit peu des success stories qu'ils ont pu faire avec certains de leurs clients, évidemment. Et là, par exemple, dans les derniers articles, ils ont parlé d'Alan Turing, de local storage en JavaScript, de comment préparer des certifications sur React, l'impact de cybersécurité sur le cloud. Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Il y avait un article sur ML, ou LLM Ops, ou ML Ops, je crois. Donc plein de sujets du moment, et c'est plutôt abordable pour le débutant, intermédiaire, et pas forcément des trucs super poilus et tout. Donc c'est rafraîchissant, c'est cool. Bon blog, bravo à l'équipe
de Sphère,
de Didier et compagnie.
Super. On repasse encore à l'IA. Il y en a de l'IA partout. Voilà, voilà. Il y a de l'IA partout.
Même chez les casse-codeurs, on fout de l'IA partout.
C'est
on va pas s'en sortir, les gars.
Alors, Demi Sassabis, j'ai écorché son nom obligatoirement, ou Asabi, je sais pas si on dit les S, annonce donc travailler sur une IA nommée Gemini, qui dépassera ChatGPT. Il a de l'ambition, le monsieur. Bon, faut savoir que le monsieur CEO de Google DeepMind, créateur de AlphaGo et AlphaFold, c'est pas non plus n'importe qui.
Mais du coup, c'est dans le cadre de Google quand même. Il fait pas,
c'est pas une startup. C'est dans Google, oui. Et du coup, on avait aussi fusionné DeepMind et Brain, qui étaient deux services différents. Donc, on les a regroupés là sous la même bannière. Donc, effectivement, AlphaGo qui avait battu le champion de Go, AlphaFold, c'est le truc de pliage de protéines, qui est un truc super complexe, et donc ils ont réussi. Enfin, ça a permis de faire des grosses avancées sur la recherche de nouveaux médicaments. Et là, Gemini, alors c'est, je crois qu'ils disent Gemini, ça a été aussi annoncé déjà lors de Google I.O. Donc j'avais déjà parlé de Gemini. Et en fait, donc c'est la version suivante plus de Palm 2, qui est le modèle utilisé par Bard. Donc c'est la suite, ça utilise un petit peu d'autres modalités, ça comprend pas que du texte mais des images, etc. Donc c'est vraiment le nouvelle structure, infrastructure de large language model, etc. Qu'on verra à terme dans Bard, dans Google Cloud, Vertex AI, etc. quoi. Donc voilà, on travaille tous sur les prochains trucs. Ouais.
C'est ça. Les next intelligence artificielle. On passe à la méthodologie. Alors pareil, un article qui était assez long qui était traumatisant aussi.
Non, c'est pas ça.
Mais qui était intéressant, qui effectivement pourra expliquer, enfin approcher l'agilité par les traumatismes de développement, passer des individus. Donc l'idée, c'était d'expliquer comment, enfin tous et toutes, dans le cadre du développement, on parle pas dans nos vies nécessairement personnelles, mais on peut avoir des traumatismes du fait de nos activités de développeurs, de nos activités au sein des équipes, etc. Donc voilà, il y a des effets traumatisant. Et donc cet article, je le résume très très vite, hein, mais justement, il reprend comment adapter le framework agile, comment se comporter pour justement ne pas rajouter du traumatisme, ne pas rajouter de la pression et de l'inconfort aux personnes qui pratiquent l'agile en se basant sur les traumatismes qu'ils ont pu avoir. Donc voilà, donc c'est un article assez long qui prend effectivement les détails pour essayer de comprendre les personnes d'une équipe, quels sont leurs traumatismes, qu'est-ce qu'ils ont vécu, mal vécu surtout, pour essayer de limiter l'impact des processus qu'on met en place côté agile.
On a tendance à être formé, forgé par une expérience en général au début de notre carrière un peu traumatique, genre tous ceux qui ont fait du WebSphere, des déploiements WebSphere, ils avaient un biais.
J'en ai encore des souvenirs. Hein.
Contre ça. Et après, c'est vrai que c'est intéressant de. Enfin, tu vois, on a réussi à en passer, parce que maintenant on développe sur Cube, qui est quand même. Voilà, tu vois, il y a quand même des similarités. Mais du coup, c'est intéressant de voir, tu vois, comprendre le truc et de trouver son poids relatif de toi au sein d'une nouvelle équipe de cette expérience là, quoi. C'est difficile à faire parce que c'est du subjectif, quoi. Après, il y a des gens qui vont dire non, mais moi plus jamais je ferai du Java parce que c'était trop lent, ou plus jamais,
plus jamais je ferai du YAML parce que j'ai passé 3 jours à trouver un espace qui n'allait pas dans mon indentation.
Tu vas faire du TOML.
Eh oui, donc voilà. Donc en tout cas, intéressant si ceux qui s'intéressent à tous ces aspects plutôt soft skills, on va dire. On passe à la dernière catégorie, loi société
et organisation. En tout cas, nos
auditeurs
auront de quoi écouter sur le trajet des vacances, là.
On les a entendus, ils nous ont dit, bah, tiens, il nous faut pour la route des vacances du contenu. Là, il y en a. On revient encore sur l'IA, c'est pas possible, ça ne nous lâche pas. Cette fois, c'est Mercedes qui va rajouter de l'intelligence artificielle dans ses voitures. Donc c'est un blog de chez qui est chez Azure et donc c'est un programme bêta test de 3 mois pour le moment et donc ils vont avoir leur assistance vocale le Hey Mercedes qui vont je vais pas le dire parce que sinon ça va se déclencher chez moi quelque part mais donc le but ça va être de pouvoir discuter avec la voiture pour trouver son chemin, concocter une recette, avoir tout simplement des discussions. J'avoue que moi ma voiture et relativement, il y a effectivement un « et » quelque chose, mais c'est très, très basique. Il faut bien lui parler. À la fin de la discussion, il faut lui dire « j'ai fini,
oui.
Donc, appuie sur le bouton, machin, etc. » C'est effectivement loin de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur nos assistants vocaux et nos IA préférés. Et donc, il prépare des plugins, par exemple, pour pouvoir être en route et puis réserver un resto, acheter des tickets de cinéma, voilà. Donc, comment avoir dans sa voiture une IA à sa disposition.
Mais du coup, c'est en route R-O-U-T-E ou en route R-O-O-T ? Parce que c'est en route sur ta voiture, qu'est-ce que ça va donner ?
Perso, j'irai pas le tester, j'irai pas la hacker. Voilà. Un autre sujet de Sacha Labouet, que je connais bien historiquement, Free Software versus Open Software dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un article qu'il a déposé sur Medium.
Ouais, c'est Sacha qui fait le parallèle de la différence entre Free Software et Open Source, et notamment dans l'univers de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup d'Open Source et d'intelligence artificielle. Là, tu as parlé de Open Llama, on a parlé de Llama 2 qui était Open Source, mais pas trop, voilà, ce genre de choses. Et là, il porte le point, un étape après, sur une approche sociétale et de sécurité individuelle, on va dire. C'est-à-dire, quel est, en fait, dans l'open source, bon, on peut prendre le code, le rendre, si c'est de la SL, on rend close source, faire des choses et amener de la valeur. Alors, du coup, ça va accélérer l'investissement. Dans le free software, l'idée c'est si tu fais un changement, tu le redonnes et du coup, l'utilisateur final, il a accès aux sources et il peut voir ce qui se passe. Et du coup, l'utilisateur final a une notion de contrôle qu'il n'exerce pas dans la plupart des cas, mais qu'il peut exercer. D'ailleurs, ça fait un petit écho à RHEL. Du coup, l'utilisateur final de RHEL, il peut exercer son droit de contrôle et du coup de voir un peu le code. Et donc Stallma, il a créé la FSF avec ça en fait. Il y avait dans ces années-là de la science-fiction, etc., qui parlait d'humain augmenté. Et là, il se dit, mais si mon imprimante, elle est buggée, qu'est-ce qui va se passer quand je mettrai des puces dans mon cerveau et que ça sera contrôlé par d'autres en fait. Voilà. Du coup, la GPL et sa viralité, elle a été construite pour empêcher ça et redonner le contrôle à l'utilisateur final. Et il dit, dans le débat de l'intelligence artificielle, là, on touche pas vraiment nécessairement, en tout cas pas tout le temps, ces points-là. C'est pas qu'il faut faire de l'open source pour casser l'oligopole Meta, Google, OpenAI, on va dire. Ouais, il y en a plein d'autres, on va dire ça. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire en termes de contrôle de l'utilisateur final. Voilà, donc c'est un article. Bon, là, j'ai fait la version courte, mais c'est ça, c'est la thèse ou l'approche que veut mettre en lumière Sacha dans le débat et dans la conversation aujourd'hui.
On passe, alors, c'est pas vraiment lié, mais on parle quand même d'open source dans cet article suivant qui vient de la fondation Apache, mais il y en a plein. Alors, il y en a des tonnes, tout le monde se plaint, alors, notamment les Américains, ce qui est logique, puisqu'on parle d'une future loi européenne, la Cyber Resilience Act, donc CRA, qui ne fait pas que des heureux justement. Il faut comprendre que là en ce moment est en train d'être voté. Donc c'était hier ou avant-hier, j'ai pas vu les résultats parce que j'étais un petit peu occupé. Mais ils sont en train de faire tout un plan légal sur comment doit Avet gérer les projets et la qualité des logiciels, notamment open source, au niveau de l'Europe. Donc il y a la même chose aux États-Unis, ils y réfléchissent beaucoup. Si vous vous souvenez, c'était suite à notamment tous les problèmes de sécurité qu'il y avait eu il y a plus de 2 ans, ou je ne me rappelle plus, où tout le monde s'est dit oh, « mais c'est grave, il y a plein d'open source, personne ne surveille ça, et puis dedans il y a des trous de sécurité, et puis en plus, oh mais il y a des projets, mais il n'y a personne qui les maintient, et puis c'est une catastrophe ». Bon, et donc ils sont tous réveillés, donc les États-Unis, je ne me rappelle plus le nom du projet et des études qu'ils font dessus, mais il y a tout un truc qui est en train de se faire. L'Europe, pareil, dit « bah non, on va falloir qu'on régule tout ça, parce que quand même, ce n'est pas possible d'avoir toute notre économie, tous nos systèmes qui reposent sur des trucs que tout le monde fait n'importe quoi avec. Bon, bref. Donc, cette Cyber Resilience Act a une vision alors très blanc-noir de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire sur les développements, la qualité à fournir et tout ça, de t'es responsable, t'as codé, c'est toi le responsable. Donc c'est bien gentil quand t'es open sourceur dans ton garage, t'as pas envie que l'Union européenne vienne te dire « attention, s'il te plaît, là il y a un bug, faut que tu le fixes, etc. hier ». Il y a pas mal de conflits par rapport au fait que il y a de l'open source, il y a pas un open source, mais il y a des milliers d'open source et des milliers de modèles entre le full open source, l'open source avec du propriétaire derrière, le fait que des entreprises contribuent à de l'open source. Est-ce que les entreprises vont pouvoir contribuer à faire de l'open source si elles deviennent responsables de la qualité de ce qui est produit en open source? Est-ce qu'elles vont vouloir le faire? Beaucoup, beaucoup de questions comme ça. Il y a pas mal de questions aussi sur, il y a des vœux un peu pieux, on va dire, de se dire, il faut être capable de livrer un produit sans vulnérabilité exploitable connue. Bon, bonne chance, hein. bonne chance. Et des choses pareilles qui sont très débattables, notamment sur les aspects de sécurité. S'il y a une faille grave et non corrigée, et exploiter, il faut en informer l'ENISA, donc l'instance européenne, dans les quelques heures. Donc en gros, désormais, si vous avez une CV, si on vous dit Manu, il y a un bug chez Quarkus, là, faut que tu ailles prévenir l'Union européenne qu'il y a un bug et comment le reproduire, etc. Sachant que c'est pas du tout dans les normes de ce que l'on fait, puisqu'au contraire, aujourd'hui, on est dans une logique. Non, on va d'abord isoler l'information, résoudre en interne le problème, etc. Et une fois que le patch l'a fixé et qu'on a compris le problème et tout, on va communiquer. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont en place depuis des années qui marchent plutôt bien et qui, la preuve, ont encore prouvé que ça avait marché quand c'était les failles de Log4j et les autres failles qui avaient.
C'est public ou une annonce à une instance qui peut garder.
C'est une instance privée. Enfin, c'est une instance qui normalement est Mais le problème est toujours le même, c'est que comme tu sais jamais trop qui est derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'info, etc. Bon, c'est pas en public. Tu devrais contacter l'ENISA et leur dire attends, il y a un problème. Mais bon, comme derrière t'es pas sûr de qu'est-ce qu'ils vont faire de l'info, généralement. Donc voilà, donc il y a beaucoup de bruit sur cette Cyber Resilience Act qui, une fois de plus, part d'une bonne idée ou d'une bonne volonté de faire mieux, de faire bien, etc. Mais qui, dans l'implémentation, c'est très discutable. Donc n'hésitez pas. Il y a pas mal de channels et de formes de discussion où ils demandent de faire des retours, d'essayer d'expliquer à nos chères instances européennes que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Alors là, je te dis, je sais pas ce qui s'est passé le 19 juillet, j'ai pas regardé les infos, mais voilà. Donc méfiance, parce qu'effectivement ça pourrait vraiment déstructurer et impacter autant l'open source pur, donc là c'est la fondation Apache qui parle et qui donc elle parle en son nom, mais que tous les acteurs d'open source, hein. Donc là bien sûr, là tous autour de la table, enfin moins un peu moins que les autres, mais font de l'open source et ça pourrait impacter ce genre de choses. On continue un peu avec de l'européen et du français c'est un tweet d'ailleurs que j'ai mis. Octave Klaba, il est quoi maintenant? Il est CEO de OVH, je sais plus, je suis un peu perdu, il a changé de casquette 36 millions de fois, mais bon, le fondateur et responsable d'OVH, qui a annoncé qu'avec son frère Miro et la Caisse des dépôts, ils ont validé la finalisation de la création d'un consortium qui s'appelle Symphonium, qui va racheter à 100% Quant. Donc OVH faisait pas mal de tests. Ils ont fait l'acquisition de Quant pour justement voir comment ils pouvaient utiliser Quant, puisqu'ils avaient été en mauvaise position, etc. Quant ces derniers temps, et aussi tout ce qui était Shadow, c'était leur plateforme de virtualisation pour les jeux, etc. Au début, c'était tout ça.
Ouais, DOS.
Ouais. Et donc, ils vont créer une joint venture avec eux d'un côté, puis la CDC de l'autre, pour créer une base commune qui aurait toutes les couches pour essayer de rivaliser un peu plus avec des Amazon, avec des Google, etc. Pour se dire, on est capable de fournir à la fois le hardware, ça OVH sait faire, l'infrastructure, etc. Mais aussi les SaaS, les IaaS et surtout les services end-user, donc d'avoir l'équivalent d'un Google Workspace, version européenne avec son search à lui, donc qui serait basé sur Quant, etc. etc. Voilà. Donc un gros mouvement qui continue de se faire en France et en Europe pour essayer d'aller vers le fameux cloud européen. Et voilà. Donc, pas mal de choses qui avancent. Et un dernier article pour finir. C'est pas un article, d'ailleurs, c'est une audio, je crois, une fois une vidéo, je sais plus, que j'avais bien aimé. Yann Lequin, il est français. Yann Lequin, donc qui est responsable de tout ce qui est IA chez Facebook, enfin Meta.
Meta.
Il a fait pas mal d'interviews ces derniers mois, donc j'en ai juste placé une qui avait été faite sur chez Europe 1. Mais moi perso, j'aime beaucoup l'écouter. Je trouve que c'est quelqu'un qui est super mesuré. Je sais pas si vous deux vous avez entendu des interviews de sa part, etc. Mais c'est quelqu'un qui est qui je trouve justement. Alors pourtant, j'ai vraiment pas dans mon cœur ni Meta ni Facebook. Vraiment ma tasse de thé. Mais alors, autant lui, je trouve qu'il a une version, enfin un discours du moins, qui est très qui a une bonne emprise sur le qu'est-ce qu'on peut faire avec les IA, qu'est-ce que ça va devenir, quels sont les risques, etc. Donc il a été énormément interviewé en français. Donc justement ces derniers mois, vous en trouverez pas mal des liens et des audios dans ce genre-là. Moi je trouve ça très intéressant parce qu'il a quand même une vision qui est un peu plus positif que beaucoup, où effectivement il positionne bien l'IA comme quelque chose qui va nous permettre d'être plus efficace, de nous améliorer, qui va amplifier l'intelligence artificielle. Il est bien conscient et il met bien en avant effectivement les risques et il explique bien que il y a des choses qu'on fait et qu'on fait pas. Mais je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Si vous vous ennuyez cet été justement et que vous cherchez des choses à écouter, n'hésitez pas à regarder les différents enregistrements qu'il a pu faire ces derniers mois. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant.
Et il y a des confs.
Il y a des conférences. On arrive à la fin. Oh, je n'en peux plus. Des conférences. Donc on va les passer très vite parce qu'on est tout de suite à la fin de l'été. Il y a Jug Summer Camp qui arrive le 8 septembre. Le Cloud Alp que j'ai loupé le 6 septembre. Agile Tour Montpellier 18 septembre. Bref, la liste est longue. Vous la retrouvez comme à chaque fois sur nos news, ainsi que sur le site, sur le GitHub d'Aurélie Vache qui a mis en plus une interface désormais. J'ai vu passer qu'il y avait un site web pour accéder à toutes ces infos. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les conférences, n'hésitez pas à regarder et soit vous inscrire, soit soumettre pour les CFP pour ceux qui sont encore ouverts. Je pense que là, ça va être pour ceux de fin d'année si c'est encore ouvert. Voilà. Là, on vient de fermer celui de DevOps Belgique la semaine dernière.
BDXAO aussi.
Ouais, BDXAO qui arrive. Ouais, c'est ça. Voilà. Oula.
Merci. Passez de bonnes vacances alors.
Petit épisode, ouais, voilà. Moi, je pars
c'est
en
ça.
Août.
Voilà.
Je pars en août aussi.
Et moi, je pars pas. Donc, je ferai mon épisode tout seul. Dans mon coin. Non, c'est ça, je serai un monologue. Non, on se revoit en septembre, a priori. Prenez soin de vous, profitez bien des vacances, reposez-vous, déconnectez-vous. C'est pas mal ça de se déconnecter, c'est quand même super sympa. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.